Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé, et dans ce podcast, je reçois des profs de yoga passionnés pour parler de la façon dont le yoga infuse nos vies et notre quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner la parole à quelqu'un qui a une double casquette pas si commune. Julie Largilière est psychologue et prof de yoga. Elle utilise donc, entre autres choses, la relaxation, la méditation ou encore les asanas pour accompagner le travail d'écoute et de parole durant les psychothérapies qu'elle mène avec ses patients et patientes. Et elle nous explique aujourd'hui comment tout ça s'articule. Bonne écoute et d'avance désolée pour les petits bruits parasites que vous pourrez entendre de temps à autre, ce sont les aléas de l'audio. Bonjour Julie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode.
Bonjour Laura, je suis mais très très heureuse d'être là avec toi.
Super. Alors toi, c'est vrai que tu es à la fois psychologue et professeur de yoga, donc ça c'est assez rare. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et puis bah, comment tu en es arrivée à associer les deux en fait dans la pratique de ton métier ?
Quel parcours ? J'ai un parcours très très éclectique. Psychologue déjà, c'est une reprise d'études. Je suis diplômée depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Et avant ça, finalement, j'ai été nourrie de toutes mes expériences. J'ai travaillé beaucoup avec les enfants, avec les tout-petits. J'ai fait de l'animation, du babysitting, je travaillais au Club Med. Ça a été très, très riche. Et s'en est suivi tout un parcours. Je cherchais, en fait, tout simplement, comme ça, ça peut rassurer les jeunes qui vont écouter... ce que je raconte là, je cherchais quoi faire de ma vie, quoi faire de ma peau. Et du coup, j'ai exploré pas mal de domaines. J'ai fait du théâtre pendant quelques années. J'ai fait de la photographie. Et puis, à un moment donné, je me suis posée en me disant « Non, mais là, j'ai envie de quelque chose de plus structuré. » D'où la reprise d'études. Et je suis rentrée sur les bancs de l'université en fac de psycho, ce qui était déjà mon désir très tôt, à 18-19 ans, à la sortie du bac, mais c'était pas le moment. Voilà, donc je suis arrivée sur les bancs de la fac à 28 ans, avec 10 bonnes années de décalage finalement. Voilà, donc sacré parcours de 5 années. Et au cours de ce parcours universitaire, très rapidement, j'avais déjà démarré en fait la pratique de yoga, moi, en salle. Et souvent me revenait cette question à la fac, mais... où est le corps, quoi ? Où est cette question du corps en fac de psycho et dans les divers enseignements que je recevais à cette époque-là ? Il était évoqué, mais à mon sens, il était évoqué de façon intellectualisée et pas mis en mouvement, pas en lien avec les sensations. Enfin, il me manquait une dimension que j'arrivais pas à identifier clairement, mais voilà. Donc j'ai commencé à me poser des questions. Et en me posant des questions, j'ai commencé à chercher. Et j'ai cherché sur Internet, merci Google à ce moment-là, et je tape yoga et psychanalyse. Parce que à cette période, à l'université, j'étais à la fois étudiante en psychologie, je pratiquais le yoga de façon un peu décousue par ailleurs, et j'avais démarré une psychanalyse perso. Et en tapant ça sur Internet, je finis par tomber sur quelqu'un qui a travaillé sur ces liens-là entre les théories finalement psychanalytiques et les textes fondateurs qu'on va retrouver en yoga, les Yoga Sutras de Patanjali. Et je contacte cette personne qui s'appelle, que je peux nommer, pense, Chrystia Berthollet-Laurel, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « La sagesse du désir ». Et je rencontre Chrystia, qui anime des groupes de travail à partir de notre expérience sur le tapis de yoga, et de faire finalement ces ponts, ces liens entre la pratique et la psychanalyse. Ouais.
Alors comment elle faisait ça justement, elle ? Comment elle liait les deux ? C'est-à-dire que c'était avec ses analysants, elle était psychanalyse, et avec ses analysants, elle intégrait le yoga, ou comment ça se passait ?
Alors je ne connais pas par cœur son parcours à elle, mais sa formation initiale est psychométricienne. Elle a fait une analyse personnelle, elle est psychanalyste, et puis dans ses expériences professionnelles, elle a travaillé avec des adolescents, avec plutôt des problématiques du côté de la psycho, si je ne me trompe pas. Et elle a tenté des trucs, en fait, de façon assez empirique. Et chemin faisant, elle a développé sa propre méthode de travail, en fait. Voilà, donc j'ai été dans cet espace de travail avec elle, où il y a à la fois de la pratique sur le tapis, des temps de silence dans la méditation, des temps d'écriture et un temps de parole. Donc c'est assez complet, assez riche, et tout prenait sens, du coup, pour moi, des liens entre les deux. Et de là, je me suis dit, mais au-delà de ce que je suis en train d'expérimenter, moi, de façon personnelle, comment je vais pouvoir intégrer le yoga dans mes psychothérapies, finalement, avec mes propres patients. Et je demande pas à Christian, en fait, à ce moment-là. Je cherche à nouveau sur Internet yoga-thérapie, en me disant, voilà, comment je vais utiliser cet outil assez vaste qu'est le yoga pour...
Oui, dans les soins psychiques, finalement.
Oui, voilà, pour mettre en lien, pour mettre en lien, parce que j'arrivais pas à ce moment-là, j'étais en train de vivre, moi, une expérience, mais je cherchais une autre manière de faire rentrer ça dans ma pratique tout de suite, mais sûrement parce que j'étais pressée, alors que c'est pas la meilleure stratégie du tout. Mais je tombe du coup là sur la formation de Lionel Coudron, qui est médecin, que beaucoup de yogis connaissent.
Oui, que j'ai déjà eu deux fois dans le podcast, qui est adorable en plus.
Voilà. Et je me dis, bon, bah, très bien, je ne savais pas trop où j'allais, mais je vais faire cette formation donc, qui est en deux années, vraiment avec une année yoga et médecine et une année yoga et psychothérapie, et psychopathologie, pardon. Voilà. Et du coup, je me retrouve dans cette formation. Et je me dis, waouh, je suis un peu perdue parce que j'ai une approche d'un côté qui est plutôt psychanalytique et Lionel, qui est médecin, a une approche plus cognitivo-comportementaliste et plus proche des neurosciences. Et là, je reçois trop d'informations, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Mais je prends, en fait, j'absorbe, je me nourris de ce qui m'est donné à ce moment-là, pour ensuite, à un moment donné, finalement, faire ma propre...
Ta propre recette.
Ma propre recette avec tous ces ingrédients-là. Voilà le cheminement pour en arriver...
Et oui, parce que dans cette formation de yoga-thérapie, donc il y avait beaucoup d'heures consacrées à l'approche des problèmes, des troubles psychologiques, c'est ça ? On vous parlait, je ne sais pas, d'anxiété, de dépression...
Ah oui. C'est des week-ends par thème. Enfin, à l'époque, c'était en présentiel. Aujourd'hui, la formation est en e-learning. Donc, j'ai eu la chance, en tout cas, moi, de la faire en présentiel. Les week-ends étaient par thème et on a vu, oui, tout ce qui est autour de la dépression, les troubles du sommeil, l'anxiété, les états de stress post-traumatique. Enfin, voilà. Donc, que des éléments qui allaient potentiellement me servir après.
Et alors, aujourd'hui, justement, avec cette propre recette que tu as réussi à concocter, toi, dans ton travail de psychologue, comment tu intègres le yoga et avec qui ? Parce que j'imagine que c'est pas systématique avec tous tes patients.
Pas du tout. Ouais, c'est pas du tout systématique. C'est-à-dire que alors j'ai été nourrie de la fac de psycho, de la formation de yoga-thérapie avec Lionel Coudron, de ce travail plus personnel avec Christia Berthelet. Et entre-temps, j'ai aussi croisé des pratiques plutôt énergétiques. Donc j'ai été initiée au Reiki, au massage ayurvédique et au rituel Rebozo.
Ah, ça, je ne connais pas. Rituel Rebozo, si tu peux nous dire en deux, trois mots qu'est-ce
En
que
deux,
c'est
trois mots, au départ, c'est un rituel qui vient du Mexique. Qui est proposé aux femmes plutôt en postpartum, avec au centre cette idée de venir pratiquer ce rituel comme un passage de ce qu'elles étaient avant et de ce qu'elles sont en train de devenir. Oui, c'est ça, c'est un peu un rite de passage, avec évidemment au centre, au niveau corporel, le resserrage du bassin, mais c'est pas que ça. Souvent, la représentation dans les images, elle est centrée là-dessus. Finalement, c'est un petit peu plus vaste que ça. Et le rituel complet au Mexique, ce sont des femmes. C'est de la transmission vraiment de femme à femme au sein d'une même communauté ou d'un village. Il y a un temps de massage. Donc, c'est deux femmes qui s'occupent d'une femme. Il y a un temps de massage. Il y a un deuxième temps là-bas, dans les tentes témescales qu'on n'a pas en plein Paris, qui sont des espaces de sudation pour faire monter en chaleur et évacuer les toxines, à la fois sur le plan physiologique, mais aussi... Voilà, sur le plan plutôt symbolique. Et un troisième temps, où on utilise le Rebozo. Le Rebozo, c'est le nom du tissu, en fait, qui est utilisé, avec lequel on va pratiquer différents resserrages du corps sur différentes zones qu'on peut associer au chakra, où on va retrouver des zones qu'on peut retrouver aussi en médecine traditionnelle chinoise. Voilà, donc en France, ça a voyagé comme plein de pratiques, donc ça s'est aussi transformé et adapté... à l'environnement. Donc, on n'a pas de tente témescale dans l'espace où on le propose, mais on a une salle de bain qui nous permet de proposer un bain avec des plantes. On installe quelque chose qui ressemble un peu à un tipi. Et de façon plus vaste, on peut l'utiliser pas seulement dans cette période du postpartum finalement, mais à d'autres moments clés de la vie d'une femme. Ça peut être un déménagement, un mariage, une rupture, enfin voilà, pareil, le champ est très vaste.
Ok, donc c'est un peu, voilà. Ça fait partie des nombreux outils du coup que tu intègres.
Oui, alors ça par contre on travaille à deux pour le Rebozo, on peut pas le pratiquer seul, et je travaille avec mes collègues ostéopathes qui ont reçu la transmission du Rebozo avec moi.
Ok, et alors oui, comment ça se passe concrètement quand un patient vient te voir?
Voilà, alors un patient qui arrive, il peut arriver de plusieurs endroits différents, soit il m'a été orienté, soit il m'a trouvé complètement par hasard, enfin par hasard, c'est jamais par hasard, en cherchant sur internet, et il va avoir retenu finalement soit le versant psy, soit un autre versant, enfin peu importe, mais ça va être la porte d'entrée. Après, de mon côté, je me mets totalement en disposition finalement d'écoute. Pourquoi la personne, elle est arrivée jusque-là? Et le mieux, c'est quand elle ne sait pas.
Mmh. Oui, qu'elle n'a pas trop d'idées.
Oui, alors il y a potentiellement une idée ou quelque chose qui a pu être formulé de ce qui se passe pour elle à ce moment-là dans sa vie. Et souvent, on ne va pas se leurrer. Il y a une difficulté ou une souffrance. Enfin, peu importe finalement le motif. Et parfois, elles ont été appelées à venir, mais elles ne savent pas trop identifier le pourquoi du comment. Et du coup, on va un peu laisser faire, se laisser déplier déjà dans un premier temps la parole. Et ça va s'ajuster en fait. Je ne sais même pas comment expliquer. Je me laisse guider par le patient. Et après, ça peut prendre toutes les formes. Je crois que je n'ai pas deux accompagnements identiques. Je vais prendre des exemples très concrets. Une personne qui est venue au départ pour une demande de psychothérapie. Et puis, finalement, on a fait un mix entre la psychothérapie un peu classique, d'orientation analytique, dans la façon dont je travaille quand même, qui laisse libre la parole par association d'idées, et sont venues s'intercaler des séances de Reiki, parce qu'il y avait une problématique somatique, et ça avait du sens de venir faire un peu de Reiki. Avec une autre, finalement, c'est la méditation qui est au centre, avec des temps de parole avant et après. Puis encore une autre, ça a été plus postural. J'ai accompagné une femme comme ça pendant très longtemps, qui a une problématique de dépression. Enfin, j'aime pas trop nommer finalement les pathologies, moi. Ça peut avoir du sens de mettre un mot, parce que ça peut rassurer parfois la personne, ou pas, ça dépend. Mais la problématique qu'il peut y avoir derrière, c'est que ça cloisonne, que ça enferme la personne dans sa pathologie, ou de ce qu'on a nommé pathologie. Or, c'est pas forcément le cas, et les choses, elles peuvent se transformer, et voilà, donc c'est un peu à double tranchant de nommer les choses comme ça, c'est très enfermant en fin de compte.
Et oui, et cette personne du coup dont tu parlais,
oui,
qui était alors bon, qui souffrait de dépression. Même si tu as pas envie de forcément de poser
oui
cette
mais c'est parce que
là.
c'est ce avec quoi elle est arrivée, parce qu'elle a fait un passage en service hospitalier, en psychiatrie, et que l'étiquette dans ces contextes-là, elle est posée en fait, ouais, pour pouvoir prescrire un traitement, mais parce qu'il est nécessaire à ce moment-là. Et du coup, avec cette personne-là, il y a eu un accompagnement assez long, mais sur un rythme vraiment très très long. Ça a été d'abord, tisser du lien, faut qu'il y ait quelque chose de la confiance qui s'installe. Et puis très vite, c'était limité par la parole. Je sentais que c'était un accès vraiment pas évident pour cette personne-là d'élaborer, de revenir, de donner du sens à ce qui se passe pour elle. Et je me suis dit, et ça a été la première, en fait, c'est pour ça que je parle d'elle, ça a été la première avec qui j'ai intégré le psychocorporel. Et les premières choses, finalement, ça a été celle avec... J'ai utilisé en premier les outils avec lesquels j'étais à l'aise. Donc j'ai utilisé, à ce moment-là, au tout début, la relaxation. Parce que ça me semblait OK pour moi, donc si c'était OK pour moi, ça pouvait l'être pour la patiente. Et puis, chemin faisant, parce que j'étais en formation à l'époque, c'est pour ça que je cheminais en même temps. Voilà, comme cette personne, elle manquait de dynamisme, c'était difficile de se lever le matin, enfin tout ce qu'on peut retrouver finalement dans la dépression. Et bien, je suis allée vers des postures, vraiment du postural, qui allait engager le corps, qui allait la redresser, la réouvrir au monde. Et là, on était vraiment dans les asanas, ouais. Et ça prenait tout son sens. J'ai proposé des choses, Et finalement, elle s'est saisie de une, deux postures parce qu'elle sentait à quel point ça lui faisait du bien.
D'accord. Et ça veut dire que dans ton cabinet, il y a un tapis que tu peux dérouler pour que, quand tu choisis de faire du postural ou...
Alors évidemment, il n'y a pas un tapis, il y en a même plusieurs. Oui, il y a des tapis de yoga. Il y a quelques tapis de yoga, quelques coussins de méditation, il y a une table de massage, il y a tout ça.
Très modulable, voilà, selon les besoins.
Oui, voilà, c'est ça, c'est modulable, exactement, c'est modulable dans, dans l'espace.
Et finalement, ce travail postural avec les asanas, est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent dans ton travail ou finalement c'est quand même plus souvent de la méditation, de la relaxation
Alors j'ai pas une pratique très ancienne finalement non plus avec tous ces outils-là. Mais jusqu'à maintenant, effectivement, c'est pas ce que j'ai utilisé forcément le plus. Alors, avec celui-là, oui. Et au final, quand il y a ces tentatives parfois d'utiliser les asanas, on revient à autre chose. Et souvent, je les oriente aussi vers le collectif.
D'accord.
Je les invite, si je sens qu'il y a une ouverture, je les invite à les pratiquer aussi en salle classique, en collectif. Peut-être surtout d'ailleurs dans certaines problématiques où c'est difficile d'être en lien avec le monde, avec l'extérieur. Voilà, d'aller saisir du collectif comme un outil qui sera du coup à l'extérieur du cabinet, mais qui va revenir finalement à la séance prochaine parce que la personne, elle va m'en parler, va me dire ce qu'elle y a vécu parce qu'il n'y aura pas eu l'espace pour ça. Voilà, il y a cours à midi, ça finit à 13h, il n'y a pas d'espace de parole, c'est un espace vraiment de pratique. Mais ça peut être redéplié, du coup, dans le temps de la séance
avec
thérapie.
Toi.
Donc, soit ça a lieu là, en individuel, mais parfois, c'est trop l'individuel. Et du coup, voilà, aller faire à l'extérieur.
Et j'imagine que ce travail postural avec le yoga, avec les asanas, dans certaines pathologies et pour certaines personnes, surtout, c'est ce que tu disais, ça aide dans le rapport au corps, forcément. Je sais pas, est-ce que tu as des exemples voilà, de personnes, de profils que tu as eu où cette pratique posturale les a aidés sur certains aspects de leur relation à leur corps
Ne serait-ce que la prise de conscience que ce corps est là, qu'il existe, parce que voilà, certaines personnes, elles n'habitent pas leur corps. Elles ont un corps, elles se déplacent avec pourtant tous les jours, elles dorment avec, elles mangent avec, elles sont en lien avec les autres avec, elles sont en lien avec le monde avec, mais elles n'ont aucune présence à leur contour, à leurs sensations. Des fois, simplement, juste s'allonger au sol ou juste s'asseoir, c'est une posture. Donc quand on parle d'asana, tout de suite, on se représente des salutations au soleil, des guerriers, des choses assez engageantes. Mais en fait, s'allonger en shavasana, c'est une posture. S'asseoir en sukhasana, c'est une posture. Et d'ailleurs, on peut le lire dans certains ouvrages, ce sont des postures abouties. Parce que justement, en Shavasana, il y a l'intention sous-jacente de quelque chose, on se dépose complètement, on s'abandonne d'une certaine manière. En assis, c'est différent, on garde une certaine verticalité, donc un certain engagement. Donc déjà, juste travailler avec ces deux postures-là, c'est énorme. Voilà ce que je peux dire des asanas.
Ouais.
Et au milieu de ces deux, finalement, c'est un peu deux extrêmes, si un peu, entre Shavasana et la posture d'assise. Et entre ces deux-là, il peut y avoir tout le panel de toutes ces postures que tout le monde peut voir dans les magazines ou dans les médias.
Oui, avec ce que tu disais, notamment un travail sur la verticalité, la confiance en soi, l'ancrage.
Oui, par exemple. Voilà. Mais après, on peut passer... Je suis encore actuellement à l'école française de yoga. Qui est un cursus en 4 ans. Je viens de valider la partie pratique. Il nous reste une année qui est dédiée à un mémoire, enfin à l'écriture et à un mémoire. Enfin, et on va continuer de pratiquer, évidemment. Mais... Et à l'école, voilà, de façon très pédagogique, les enseignants ont choisi de classer les postures en familles. Donc il y a 8 grandes familles de postures. Et toutes ces familles, elles ont du sens. D'ailleurs, si je les nomme, peut-être tu vas entendre ce que ça peut venir résonner. Il y a la famille des étirements, donc là on va plutôt s'auto-grandir, créer de l'espace dans la colonne vertébrale, enfin on va s'élever quelque part, tout en étant ancré dans le sol. Après il y a tout, les flexions, les extensions, les équilibres, les inversions, peut-être j'en oublie, enfin là j'en ai oublié c'est sûr. Mais de toute manière on va explorer la colonne vertébrale dans tous ses axes. Déjà, donc, qui dit explorer la colonne vertébrale dans tous ses axes, dit explorer ses points de vue dans tous les axes. observer le monde dans toutes ses perspectives. C'est là où il y a les liens, finalement, entre le corps et ce que ça vient symboliquement évoquer. Et ce ne sera pas forcément la même chose, en plus, pour chacun. Donc, on peut avoir l'idée que, je ne sais pas, la posture de la chandelle, qui est une posture d'inversion, où le corps est placé au-dessus du nombril, on peut se dire, bah, ça change de perspective, on a la tête en bas... et puis pour une autre personne ça va être extrêmement angoissant, elle va pas du tout percevoir cette notion là donc laisser libre aussi à la personne de vivre ce qu'elle a à vivre dans cette posture sans la bousculer ou pré-nommer quelque chose que ça devrait lui faire.
Et j'imagine aussi qu'il y a du coup forcément des précautions à prendre, c'est-à-dire certaines postures que tu ne vas pas proposer à certaines personnes parce que voilà, parce qu'elle est pas prête, parce que ça risque de la mettre en insécurité.
Oui, et puis alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau corporel, fonctionnel. Si j'ai une personne qui vient et qui, en plus, a des troubles somatiques, a une blessure à l'épaule ou une problématique au genou, ou je pense à cette femme qui, avec sa dépression, elle avait aussi pas mal de troubles somatiques, notamment un glaucome, par exemple. Là où, dans la dépression, c'est plutôt une bonne piste d'aller utiliser les inversions, comme elle avait un glaucome... Je ne pouvais pas utiliser ça. Donc vraiment, ça avait été une question d'adaptabilité, d'adaptation en permanence. Et c'était très limité. C'était limité corporellement, parce qu'une femme pas toute jeune, qui avait très peu eu de pratiques sportives. Voilà, donc ça réduisait le champ des possibles au niveau des postures. Donc ça demande beaucoup de créativité.
Ouais. Oui, parce que tu parlais tout à l'heure de la méditation. Alors je sais qu'elle est utilisée, hein, y compris par des médecins, notamment pour traiter l'anxiété, la dépression. Ouais. Et à la fois, c'est vrai qu'on m'a déjà dit aussi que la méditation, quand on a certains troubles psychologiques, ça peut être très angoissant, quoi, qu'il ne faut pas se mettre à méditer forcément tout seul comme ça, que ça peut réveiller des choses. Enfin, comment tu gères aussi ce côté où certaines pratiques posturales ou méditation peuvent aussi réveiller des angoisses. Et ce n'est pas toujours apaisant pour tout le monde de méditer, loin de là. Donc,
mais complètement. Alors la question des précautions à prendre, des risques de la pratique, que ce soit posturale ou la méditation, c'est une vraie question. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Alors, d'un point de vue postural, il y a plein de précautions physiques à prendre. Il y a des tas de postures qui sont, sur lesquelles on peut se blesser. Il ne faut pas oublier que le yoga, c'est pas une pratique non plus anodine. Il faut faire attention à ses cervicales, à sa zone lombaire. Je parlais de la chandelle tout à l'heure, on ne rentre pas dans une chandelle n'importe comment. Il y a une façon de préparer le corps pour rentrer dans la posture, pour s'installer dans la posture, et comment on quitte la posture, ou comment la posture nous quitte. Donc, il y a des étapes, en fin de compte. Donc, c'est important d'amener les élèves, de les accompagner dans la posture avant, pendant et après. Déjà, ça, c'est du côté vraiment physiologique. Après, sur le plan plus psychologique ou même énergétique, à mon sens, une posture peut venir réveiller quelque chose, sans que la personne identifie quoi dans un premier temps. Et la méditation aussi. Parce qu'effectivement, s'asseoir et n'avoir rien à faire, ça peut être extrêmement angoissant. Donc, en général, je pressens les personnes avec qui je propose un accompagnement. Je pressens ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Donc, je ne vais pas m'aventurer vers quelque chose qui me semble pas juste pour elles. Et puis parfois, on fait un essai et ce n'est pas juste, donc on va revenir à autre chose. Mais je vais en tout cas tenter de ne pas mettre en danger, en danger la personne qui vient... mais bien sûr, moi je pense qu'il y a... c'est oui et non, c'est-à-dire ça peut réveiller des choses, et en même temps si ces choses se réveillent, c'est là où c'est paradoxal, c'est-à-dire que oui, il y a le risque que ça réveille quelque chose, et en même temps si ce quelque chose se réveille, si cette émotion arrive, si il y a un trauma qui ressurgit, si la posture agit chez la personne, c'est qu'elle est prête à le recevoir. Donc quelque part, à partir de là, on pourrait dire que non, il n'y a jamais de risque, parce que ce qui est en train de se passer peut être accueilli par la personne. Après, je reste vigilante avec ça, parce qu'il suffit d'une personne dont la structure vraiment sous-jacente, psychique, est très très fragile, et on ne l'a pas perçue dès le départ. Alors, en individuel, non. J'ai fait des stages en psychiatrie, je sais, disons, identifier. Mais dans un cours collectif, par exemple, on peut Ne pas voir tout de suite quelqu'un qui aura une structure fragile.
Oui, oui, parce qu'en plus, on a un prof de yoga lambda n'a pas cette parole que toi tu as avec tes patients où tu apprends
sur la mesure plein de choses. Et puis il n'a pas forcément tous les outils. Enfin, ça dépend de sa formation, ça dépend de son parcours, ça dépend de tout un tas de choses. Donc il va voilà. Donc oui, il faut faire attention. Il faut être vigilant.
Et c'est vrai que d'ailleurs, tous les profs de yoga ne sont pas formés à ces problématiques, loin de là, hein, parce que selon la formation que tu as fait, ça peut être une difficulté qui peut surgir dans un cours collectif pour n'importe quel prof d'être face à quelqu'un où il y a quelque chose, une angoisse, un traumatisme qui ressurgit. Genre, je sais que les Américains, notamment, ils ont de plus en plus ça, cette approche-là de trauma-informed yoga, je crois, ils appellent ça. C'est des gens qui le désirent, hein, qui se forment à ces problématiques-là en particulier, je pense, pour accueillir les gens plutôt en individuel. Mais oui, savoir comment accueillir quand il y a des choses qui émergent dans les pratiques de yoga.
Si ça arrive dans un cours collectif, ce qui serait préférable, c'est que voilà, le prof de yoga puisse accueillir à minima ce qui est en train de se passer, mais puisse avoir surtout du réseau, c'est-à-dire être en lien avec les personnes ressources qui pourront accueillir ça, si elle n'est pas en mesure de le faire. Parce que, voilà, il y a des psychologues enseignants de yoga, ce qui est mon cas. Il y a des profs de yoga qui désirent devenir thérapeutes. Aujourd'hui, le champ des possibles est tellement vaste qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut pouvoir... Alors, j'arrête pas de dire il faut, alors que je déteste cette expression. il est nécessaire, ou il serait juste, que chacun puisse savoir où se trouvent ses propres limites et pouvoir orienter quand c'est nécessaire. Moi, je travaille de façon plutôt holistique, finalement, en prenant voilà, la personne dans sa globalité, son corps, son fonctionnement, son psychisme. Oui, quelque chose d'holistique, et en même temps, je ne peux pas tout faire, et je ne peux pas voilà, avoir tout appris.
Oui.
Donc, je puisse moi-même orienter vers ma collègue ostéo ou ma collègue infirmière puéricultrice. Je travaille quand même pas mal avec aussi autour de la périnatalité. Donc, il faut pouvoir déléguer quelque part. Quand je dis holistique, c'est dans le sens, un regard global de la personne aussi dans son environnement. Et son environnement, c'est son environnement, sa cellule familiale, l'endroit où elle vit, mais c'est plus vaste que ça. Donc quelle ville elle vit, dans quel pays elle vit. Et finalement, si on va beaucoup plus loin, c'est le monde en entier, enfin la terre sur laquelle on est, de laquelle on fait partie. Et dans le travail que la personne, elle vient chercher, il y a une recherche d'équilibre, ou de savoir où elle en est. Au fond, grande question existentielle, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là, sur cette terre? Et pour toucher plus ou moins du doigt cet équilibre, moi j'ai fait une liste qui m'est propre, de toutes les sphères à équilibrer. Donc il y a à la fois le corps, sur le plan plutôt fonctionnel, il y a le plan physiologique, plutôt du côté des fluides et des organes. Donc là, on est toujours du côté bio. Il y a le fonctionnement psychique. Il y a le fonctionnement cognitif, comment on fonctionne dans notre manière de penser. Il y a toute la sphère affective. Dedans, on peut mettre tout ce qui est du côté des émotions, des sentiments. Et puis après, il y a... Voilà, on commence à aller dans une autre... J'ai démarré, en fait, par tout ce qui va être très... ancré, très en lien avec la terre, très matériel, c'est-à-dire notre corps, voilà, qu'est-ce qu'on en fait. Et puis petit à petit, on remonte finalement vers des choses un peu plus subtiles et moins palpables, moins visibles. Tout ce qui est psychique, cognitif, il y a des choses déjà aujourd'hui. Après, on bascule du côté plus énergétique. On commence à étudier, quand même depuis quelques temps, à pouvoir mesurer des choses. Donc tout ce qui va être du côté vibratoire, du côté spirituel, du côté sensoriel et du côté créatif. Donc ça fait beaucoup de choses quand même.
Et autant d'approches pour toi, du coup, dans ton travail, quand tu es face à une personne?
Oui, autant d'approches. Après, voilà, quand il y a besoin de dispatcher ou de travailler avec les collègues, moi je reçois des patients que j'oriente vers des sages-femmes, ou vers kiné, ou vers l'ostéo, parce que j'ai mes propres limites. Moi j'ai mes outils. Si ça parle et que ça fait résonance, très bien, on va les utiliser. Et puis, s'il y a besoin de compléter, et il y a souvent besoin de compléter, ou d'orienter vers un médecin. Parfois, il faut éliminer un trouble fonctionnel. Je pense à une patiente avec des troubles digestifs. Première chose, dès le départ, c'est est-ce que vous avez fait un bilan médical ? Parce que moi, ça me permet voilà, de mettre de côté cette part-là. Ok, il n'y a rien, tous les examens ont été faits, on va aller travailler toutes les autres sphères. Parce que s'il y a quelque chose à traiter qui s'est installé physiquement, c'est important de le traiter. Même si la source, elle est ailleurs, si la source, elle est psychosomatique, si elle est un nœud énergétique coincé quelque part, enfin, peu importe, s'il est là, il faut le traiter. Il n'est pas question d'exclure la médecine.
Bien sûr, non, mais ça c'est important de le rappeler, voilà, de le travail en réseau et puis voilà, c'est intégratif vraiment, c'est pas exclusif.
Un réseau intégratif global avec tout ce qui existe et tout ce qu'on a à disposition aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit du médical très ancré, très terre à terre quelque part, et en même temps pouvoir utiliser aussi des choses un peu plus subtiles qu'on ne voit pas, qui a un côté un peu magique, mais comment ça marche. Et pourtant, ça a des effets assez importants. Donc,
Alors, toi, je crois que tu m'avais dit que tu travaillais pas mal sur les addictions.
Alors, j'ai travaillé.
Ouais, tu as travaillé sur les addictions. Et ouais. tu intégrais le yoga aussi dans ce
travail ? Non, j'ai travaillé, j'étais salariée pour une association qui s'appelle le DAPSA. Un super long acronyme, des dispositifs d'appui à la périnatalité et aux soins ambulatoires. J'ai travaillé avec cette merveilleuse équipe pendant 4 ans. J'y étais à temps partiel, parce que j'étais déjà en libéral à l'époque. Donc là, au centre du travail, addiction et périnatalité. Donc addiction et femme enceinte. Ce qui est souvent est représentable... c'est pas évident, on est dans un champ de travail qui n'est pas forcément évident à se représenter, parce que déjà addiction, ça fait on projette des choses sur ce que c'est que les addictions, on projette des choses sur ce que peut être la grossesse, mais alors coller les deux ensemble, là, ça devient un peu compliqué. Oui, j'ai eu l'immense chance de travailler dans ce contexte-là, mais j'utilisais oui et non, d'une certaine manière. Non, je suis en train de me dire là, en réfléchissant tout de suite, que si, le yoga était déjà là. Ouais. Mais pas comme, pas dans la pratique. Pas dans la pratique elle-même avec un tapis. Moi, j'étais sur les équipes mobiles, donc je rencontrais finalement soit des femmes enceintes, soit des jeunes mamans, qui souvent avaient des consommations de produits, voilà, qui avaient des conditions de vie assez précaires la plupart du temps. Donc je les rencontrais dans des contextes très très divers et variés. Ça pouvait être à l'hôtel social, ça pouvait être au square, ça pouvait être au McDo, ça pouvait être dans la rue juste pour marcher. Voilà, donc un contexte comme ça très souple, un cadre très souple, parce que c'était pas possible de les rencontrer autrement, parce qu'elles n'étaient pas en demande de soins. Et dans un contexte comme ça, la première chose à faire, c'est de tisser du lien. Parce que qui dit addiction, dit problématique autour de la question du lien, de l'attachement à l'autre. Enfin, problématique souvent des premiers liens. Parce qu'on colle le mot addiction à la consommation, finalement, de produits. Oui, d'accord, mais en fait, c'est pas ça le problème. Enfin... Il y a autre chose derrière, il faut enlever, c'est toujours un... Je me représente toujours le travail thérapeutique comme un oignon, ou énergétique d'ailleurs, c'est la même chose. Hein. Voilà, on a un oignon, on est des oignons, nous sommes des oignons, et on va enlever une première couche, et puis une deuxième, et on continue comme ça jusqu'à aller au cœur du nœud du problème. Donc oui, la consommation de produits, bah, très bien, mais ça sert à rien de vouloir faire arrêter à la personne de consommer, en fait, c'est pas le premier truc à faire, ça à faire rater quelque chose. Donc déjà tisser du lien, souvent avec ces femmes-là. Et en fait, si on revient à ce premier mot dont on parle depuis tout à l'heure, qui est le yoga, et la traduction... Alors il y a plein de façons de traduire le mot yoga, mais il y en a un voilà, qu'on peut retenir, et souvent c'est celui qui est le plus diffusé, il y a la notion d'union, de se lier, d'harmonie. Bon, ben voilà, donc d'une certaine manière, au DAPSA, en travaillant dans ce champ de travail-là d'addiction, ben, j'étais déjà en train de faire du yoga.
Et oui.
Et on est loin du tapis, là. On est très très loin du tapis, et pourtant c'était déjà ça.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de nous dire sur ce sujet qu'on n'a pas abordé ?
Il y aurait plein de choses, je pense, à dire. Après, il faudrait faire un deuxième podcast.
C'est sûr.
À l'université, en psycho, je me suis très rapidement spécialisée en périnatalité. Je sais pourquoi aujourd'hui. À l'époque, je ne savais pas, mais pourquoi je faisais ça. Voilà, c'est l'aube de la vie, c'est le début. Voilà, il y a quelque chose de très mystérieux et très intriguant quand même dans cette période qui est la grossesse, ou même l'avant-grossesse. Donc j'ai été explorer un peu ce champ-là sur le plan psy. Et puis, j'ai moi-même vécu la grossesse et le début de la maternité. Donc, j'ai fait du yoga prénatal. Du coup, j'ai eu très envie de me former. Et en fin de compte, dans mon parcours, je me suis d'abord formée en yoga pré-postnatal et en yoga de la femme. Donc, beaucoup autour de la femme. Donc, j'avais ça comme outil. Et la périnate, côté plutôt psy. Et j'ai accueilli à plusieurs reprises des parcours de femmes en parcours PMA, en procréation médicale assistée. Et là, ça a pris tout son sens, très rapidement, d'utiliser le yoga. J'ai souvenir d'une femme qui était dans un parcours assez long, enfin depuis long, enfin c'est souvent le cas de toute façon, et qui avait dépassé en plus l'âge ici en France, donc elle avait un parcours en Espagne, si ma mémoire est bonne. Et vraiment, on a beaucoup travaillé autour du bassin, de la mobilité du bassin, d'amener des visualisations positives dans cet espace-là avant. Du coup, qu'elle fasse son déplacement pour une FIV en Espagne. Et alors, bon, on ne saura jamais si le yoga a eu ses effets ou pas. En attendant, cette fécondation in vitro a fonctionné. Et j'ai eu des nouvelles ensuite, par la suite, de ce bébé qui est bien arrivé, qui va bien, alors qu'elle avait, elle avait 46 ans. Donc, ce qui est considéré comme... tard, voilà, grossesse tardive, c'est horrible ce terme.
Non, alors il y a pire comme terme, il y a grossesse gériatrique.
Ouais, non, mais alors là, dire ça à une femme de 46 ans, on est carrément... Enfin, c'est fou d'entendre ça. Bon, bref, encore une fois, ça catégorise. Alors oui, effectivement, biologiquement parlant, il y a un début et une fin au cycle ovulatoire, c'est vrai. Mais la vie d'un enfant, elle s'invite quand elle a décidé, en fait. Donc... après, c'est différents points de vue. Il y a le point de vue, encore une fois, médical, et de préserver la santé, évidemment, de la future maman, du bébé, parce que voilà, plus l'âge avançant, plus il y a de potentiel risque. Et en même temps, il y a des tas d'exemples de femmes qui ont vécu une très belle grossesse, ce qui a été le cas, là, de ma patiente. Une grossesse absolument sans problème sur le plan physiologique. Donc voilà, on ne saura jamais si l'accompagnement yoga
mais c'est vrai que sur tout porteur, ce qui est PMA, fertilité, on en parle de plus en plus.
Oui, oui, oui.
Ouais, il y a un accompagnement à trouver de toute façon, et oui, je pense que le yoga a toute sa place.
J'ai pas été formée au sens de yoga, fertility yoga, mais à trouver des ressources dans le yoga tout court, finalement, pour accompagner quelle que soit la situation. Après, voilà, j'ai cette spécialité en périnatalité, donc forcément, c'est un domaine que je connais bien. Et ça va de l'avant-grossesse, c'est-à-dire de ce désir, finalement, ce désir de grossesse ou désir d'enfant, ce qui n'est pas la même chose, et la période de grossesse, et puis l'après, jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc c'est très vaste comme champ.
Et où est-ce qu'on peut te trouver justement? Comment on peut, si on a envie de peut-être d'avoir une consultation avec cette approche très holistique justement?
On peut me trouver à Paris, dans le 20e, plus précisément dans le quartier de Gambetta.
D'accord. Et toi, donc tu reçois en cabinet. Par contre, tu n'es pas prof de yoga en dehors, alors, où tu fais des cours collectifs ou...
Ça va venir. Là, j'ai remplacé une collègue de façon ponctuelle sur un cours de yoga classique. Enfin, voilà, ça, c'est le projet.
D'accord.
À suivre. Pour la rentrée. Oui, non, mais on me demande là de plus en plus, en fait. Donc, du coup, j'ai déjà un espèce de petit groupe d'élèves qui est en attente d'une salle. Enfin, que j'ai une salle pour proposer un cours. Donc, ça va se faire. Mais voilà, chaque chose en son temps, on peut pas être partout en même temps. Mais j'aimerais bien pouvoir proposer un ou deux cours, mais pas plus, pour que ça reste, voilà, quelque chose de...
Et du coup, peut-être, y compris pour accueillir en cours collectif des patients à toi, ou c'est d'autres gens qui sont pas dans ta patientèle qui ont cette demande-là?
Pourquoi pas? Là où avant, j'aurais dit non, je scinde complètement en deux, je n'en suis plus là aujourd'hui. Et je pourrais tout à fait dire oui à quelqu'un que je reçois en individuel et qui puisse venir à un cours collectif, parce que ça prendrait sens. Et voilà, moi je sais distinguer les espaces, donc c'est envisageable.
D'accord, et ben merci beaucoup Julie pour cet échange.
Merci à toi Laura de m'avoir donné la parole.
Merci, à bientôt.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me suivre sur mon compte Instagram @yogaenoupodcast. On se retrouve très bientôt pour un dernier épisode hors série avant l'été.